La trichotillomanie, l'arrachement compulsif des cheveux, une attitude, une problématique, un phénomène que des personnes rencontrent, qui en souffrent. Aujourd'hui, nous allons en parler avec Edgar Smadja, hypnothérapeute sur Paris. Et dans un podcast qui s'adresse le plus souvent aux hypnothérapeutes, cette discussion est enregistrée pour être écoutée par le plus grand nombre. Ça s'adresse aussi aux gens qui souffrent de cette affection pour inviter les gens à venir en parler. Donc Edgar, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais au niveau de la trichotillomanie aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Qui est concerné? Et quelles sont les initiatives, les réponses qu'on peut proposer par rapport à ça?
Très bien, merci Manu de m'accueillir dans ta radio Manu, Radio Winter.
Avec plaisir.
Et je suis très content de parler de la trichotillomanie parce que j'ai rencontré plusieurs personnes qui souffrent de ce trouble et qui me touchent beaucoup dans cette problématique. Alors, la trichotillomanie, comme tu l'as dit d'emblée, c'est ce besoin irrépressible de s'arracher les cheveux. Ça peut être également les cils ou d'autres poils ou les sourcils. Ce n'est pas à des effets, cet arrachage des cheveux n'est pas accompli à des effets cosmétiques.
D'accord.
Alors, bien souvent, cet acte est réalisé pour apaiser une tension intérieure. Donc les personnes vont avoir ce comportement pour apaiser cette tension. En
Calmer une
réalité,
émotion, par exemple.
calmer des émotions, calmer une tension intérieure ou un malaise intérieur. Il peut, en réalité, il y a deux aspects dans cet arraché des cheveux. Il y a une part inconsciente, c'est-à-dire que les personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en train d'accomplir ce geste. Et elles se retrouvent une heure après avec un petit tas de cheveux sur la banquette ou à leurs pieds. Et elles se rendent compte qu'elles ont fait ça. Donc elles étaient dans une parenthèse totale. Et ça a été totalement inconscient. Elles ne se rendent pas compte qu'elles ont commencé à arracher les cheveux. Elles se rendent compte juste qu'une heure après, elles étaient en train de faire ça. Et elles voient ces cheveux, ce qui est assez douloureux pour elles. Ça peut être aussi, de façon tout à fait consciente, les personnes ont une tension intérieure, une colère, une difficulté dans leur vie, un stress, et elles vont consciemment arracher les cheveux pour apaiser cette tension intérieure. Alors la trichotillomanie touche principalement les femmes à 90%. C'est un trouble qui naît assez jeune,
Jeune, c'est quel âge alors?
C'est au moment de la puberté ou juste avant, vers 12 ans, 13 ans,
D'accord.
les personnes, lorsqu'elles vivent cet arrachage de cheveux, elles sont très souvent honteuses de ce comportement. Elles ont honte, elles n'en parlent pas, elles ont des difficultés à livrer ce comportement. Et puis, ce que je n'ai pas dit, et ce qui est quand même très important, c'est que cet arrachage de cheveux régulier durant des années provoque des zones d'alopécie sur le crâne, c'est-à-dire des zones comme s'il y avait des parties du crâne qui étaient complètement chauves,
Comme une pelade.
comme des trous, comme une pelade. Et c'est difficile à vivre pour ces personnes parce qu'elles sont obligées de le camoufler. Donc elles n'en parlent pas, elles camouflent leurs cheveux et cela, elles font en sorte aussi d'éviter toute sortie ou toute activité dans laquelle on pourrait voir leur chevelure. Par exemple, elles ne vont pas aller à la piscine, elles vont refuser un week-end entre amis parce que là, on va bien voir qu'il y a cette problématique dans les cheveux. Et donc, ça conduit aussi à une forme d'isolement social. Parfois, personne ne le sait. Elles n'en parlent pas ni à leur famille, ni à leurs compagnons, s'ils sont en couple. C'est secret. C'est
Et ça
secret et
paraît
honteux.
difficile de le cacher à des proches, pourtant.
Pourtant, c'est ce qu'elles font. Hein, c'est ce qu'elles font.
Donc une charge émotionnelle supplémentaire, en plus de
Beaucoup
la
de
honte,
honte,
la culpabilité,
de culpabilité.
l'incompréhension, le fait de se réveiller, d'un espèce d'état second où on se rend compte qu'on a procédé à ça.
C'est une mise entre parenthèses, elle se met entre parenthèses, le temps s'arrête, il n'y a plus de pensée, il n'y a que cet acte qui se fait de façon tout à fait inconsciente, compulsive. Et puis, quand elle s'éveille, elle voit le temps qui est passé, 1 heure est passée. C'est une mise entre parenthèses, une sorte de, on pourrait dire une sorte de méditation, sauf que ça a des effets négatifs et que les personnes, non seulement elles s'infligent des dégâts sur leur chevelure, mais en plus elles se sentent très coupables de faire cet acte. Ça les préoccupe beaucoup. Elles n'osent pas en parler.
Qu'est-ce qui se passe si elles en parlent? Tu m'as donné des exemples
Alors,
d'entourage pas forcément bienveillants dans l'attitude,
Effectivement, moi,
etc.
parmi mes clientes, il y en a une qui en a parlé à sa mère. Et puis, sa mère a eu sur le coup une réaction assez bienveillante. Mais elle en a parlé après. La mère en a parlé à ses copines. C'était un élément un peu de phénomène de foire et qui était très difficile pour cette jeune fille, cette jeune femme, hein. Enfin, cette jeune fille à l'époque. Elle m'a raconté même qu'à un moment donné, elle était devant un jeu, et puis une copine de sa mère venait lui caresser les cheveux, et elle a compris qu'en réalité, elle n'était pas là pour lui caresser les cheveux, mais pour chercher les trous dans sa tête, pour les voir. Bon, ça l'avait heurté. Ce qui fait que cette personne, maintenant, on n'en a plus parlé, sauf à moi, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un vrai secret.
Il y a même des personnes qui le cachent à leur psychothérapeute.
Absolument. C'est quelque chose qui est honteux, qu'elles ne comprennent pas. Bien souvent, elles ne savent même pas que ça a un nom, elles ne savent pas que d'autres personnes le font. Il y a une sorte de vide. D'ailleurs, dans la nosographie, dans le classement de ce trouble, il y a pas mal de.
La
Beaucoup.
nosographie, c'est
C'est le classement des troubles psychiatriques.
D'accord.
Ça existe. C'est répertorié dans le DSM, mais ça a des errances. Par exemple, dans le DSM-4,
Donc le DSM, la classification des troubles mentaux
Américaine.
américains.
Et donc dans le DSM-4, c'était classé dans le contrôle des impulsions, dans les problèmes de contrôle des impulsions. Dans le DSM-5, ça a été rangé plutôt dans la catégorie des TOC connexes, TOC et troubles connexes. Mais en réalité, beaucoup d'auteurs émettent des hypothèses qui sont assez différentes. Ça ne convainc pas la plupart des auteurs. Par exemple, le TOC, il n'y a aucun effet conjuratoire. Les gens, quand elles s'arrachent les cheveux, ne pensent pas qu'elles vont avoir du bonheur ou qu'on va éviter un malheur en s'arrachant les cheveux. Donc, il n'y a pas l'effet du TOC. Enfin,
Il n'y a pas l'effet de contrôle, de vérifier une porte, une serrure, de se laver
Non,
les mains,
non.
de protection, de conjuration alors.
Il n'y a pas du tout cet effet-là. Tic, on ne peut pas dire que ça rentre dans la catégorie des tics parce qu'il y a quand même, il y a un aspect conscient. On fait ce geste quand on pour apaiser une tension intérieure, on sait qu'on va le faire, donc il y a une partie où on est conscient. Or, dans un tic, on ne va pas provoquer le tic,
On le subit, ouais.
on le subit. Donc, il y a certains auteurs qui parlent d'addiction comportementale et personnellement, moi je me range à cet avis, c'est ce qui me convainc le mieux parce
Donc
que je trouve
on
qu'il
serait addict à un comportement alors.
y a. Bien sûr, ben, on est addict à différents comportements. Il peut y avoir des addictions sans substance, par exemple des addictions au jeu de hasard et d'argent. Il n'y a absolument aucune substance et c'est quand même une vraie addiction qui est rangée dans les addictions au sexe. On peut même parler d'addiction au comportement alimentaire. Enfin, les addictions, c'est très large.
Quelque
Selon.
chose qu'on ne peut pas empêcher, auquel on ne peut pas résister.
Il y a des impulsions et puis il y a quelque chose de répétitif.
Qui est concerné par ça? Donc des femmes,
Alors,
principalement. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on sait à peu près
principalement,
combien de personnes souffrent de
alors il y a les
trichotillomanie?
avis selon les articles que j'ai pu étudier sont assez différents. Ça va entre 2% de la population féminine à 4% de la population.
D'accord.
Donc, ce qui représente quand même pas mal de monde.
Beaucoup de monde qui vit
J'ai.
dans ce secret-là, alors.
Et qui. Pardon?
Beaucoup de monde qui vit dans ce secret-là,
Oui, dans ce
alors.
secret. J'ai, suite à différentes séances que j'ai pu faire avec l'une de de mes clientes. Elle a décidé d'en parler dans un groupe de danse. D'ailleurs, tout de suite à ses séances, elle a changé un peu de vie puisqu'elle a, elle a changé d'un travail qui lui apportait beaucoup de stress pour aller dans une formation de danse dans laquelle elle se sentait très investie. Et dans la danse, évidemment, c'était un peu compliqué pour elle parce que avec la perruque, faire certains mouvements de tête, c'était compliqué. Donc, elle a décidé d'en parler à ce groupe d'une vingtaine de personnes. Elle a été, ses propos ont été accueillis avec beaucoup de bienveillance. Et sur ces 20 personnes, il y avait trois autres femmes qui connaissaient ce trouble et qui le vivaient elles aussi.
D'accord.
Donc ça montre quand même que c'est plus répandu qu'on l'imagine.
Ça a dû beaucoup l'aider de voir cet accueil.
Alors elle,
cette personne.
Actuellement, elle m'a dit une phrase qui m'a marqué parce qu'elle me dit en ce moment j'ai envie de le dire, non seulement j'ai envie de le dire, mais j'ai envie de le hurler. Elle a envie de le livrer. Et c'est pas facile parce que beaucoup de personnes n'en parlent pas. C'est un secret honteux. Il y a un retard de prise en charge qui est assez énorme parce que les personnes, le trouble, comme je te l'ai dit tout à l'heure, commence vers l'âge de 12 ans. Et puis généralement, les personnes viennent consulter sur cette problématique entre 28 et 30 ans. Ça veut dire qu'il faut bien imaginer que tu as 16 à 18 ans de répétition de ce geste. C'est une habitude, si on peut parler d'habitude, extrêmement ancré,
presque, qui se rattache presque à l'identité de la personne, quoi.
Bien sûr. C'est une façon de faire qui fait partie de sa manière, de leur identité. Alors, en quoi ça les aide? Ça les aide à soulager une tension intérieure, ça les aide à gérer des émotions. Certaines me parlent justement d'émotions exacerbées, et que c'est une façon d'aider à gérer les émotions, ça aide à gérer le stress. Et certains auteurs, notamment Sesnay, qui est un psychiatre qui est assez spécialisé sur la question, a relevé beaucoup de procrastination dans ces personnes qui ont ce comportement. Et donc, lorsqu'elles se retrouvent devant des actions à effectuer et qu'elles ont une certaine tension à l'idée de réaliser ces actions, eh bien, elles se mettent entre parenthèses et elles vont s'arracher.
Il y a des bénéfices secondaires, il y a des intentions positives, en tout cas on peut l'imaginer, mais il y a surtout le côté qu'on peut définir dans les addictions de manière plus large, on en avait parlé dans un sujet sur l'addictologie, que si on retire le comportement, si on empêche la personne de se livrer à ça, c'est ingérable au niveau émotionnel en fait.
Ça peut être ingérable au niveau émotionnel.
Ça leur empêche de péter les plombs, en fait.
C'est pour ça que moi, ce que je pense dans l'approche thérapeutique de ces personnes, c'est que la chose la plus importante, c'est d'établir une relation, c'est de les écouter avec bienveillance, avec empathie, avec, en installant une relation thérapeutique, et c'est ce qui est vraiment indispensable pour aider ces personnes à passer outre ce comportement. Moi, je te dis très franchement, je ne peux pas dire que j'ai un succès absolu dans la gestion par l'hypnose de ce trouble. Toutes les personnes me disent qu'elles ont eu beaucoup de bien, qu'elles se sentent beaucoup mieux, mais je n'ai pas obtenu un arrêt total du comportement. J'ai obtenu des rémissions plus ou moins longues.
Oui, jusqu'à 6 mois, par
jusqu'à
exemple.
Jusqu'à 6 mois. Mais par contre, j'observe que dès qu'il y a des périodes de vie avec de la tension, avec du stress, et ben ça revient. C'est d'ailleurs dans les articles que j'ai pu lire et dans le livre de Sesnay, c'est également ce qu'il dit. C'est un peu comme une addiction, quelqu'un qui a un trouble de l'usage de l'alcool. Eh bien, il peut être abstinent, mais il n'est jamais complètement sorti de cette problématique.
Il suffit qu'il y ait un incident, licenciement, séparation, décès, etc.
Ça et c'est ce que j'observe dans la trichotillomanie. Les personnes ont des rémissions, se sentent mieux. Bon, enfin, globalement, avec l'approche thérapeutique, avec l'hypnose, elles se sentent mieux. Donc, ce qui est déjà pas mal. Et il y a des rémissions. Mais Je peux pas dire que voilà, je claque dans mes doigts et qu'il n'y a plus de problème, c'est pas vrai.
D'accord, t'as pas une méthode magique en X étapes,
Non. Je peux
avec des
parler un peu de
résultats
ce...
très prévisibles,
Non,
etc.
je peux parler un peu de ce que je mets en place.
Ouais, qu'est-ce que tu mets en place?
Eh bien, en fait, le traitement recommandé par les psychiatres dans ce trouble, c'est les TCC, hein, comme souvent, bien souvent, les psychiatres recommandent les TCC. Et il y a des, ils recommandent de prendre note du moment où le trouble survient, et puis de mettre en place des stratégies d'évitement. Hein. Il y a un nom d'ailleurs particulier, je vais te dire, ils appellent ça le protocole de renversement des habitudes.
Protocole de renversement des habitudes.
Donc on a une autre réponse face aux symptômes. Ben, c'est ce qu'on fait un peu avec l'hypnose dans des protocoles comme le recadrage en 6 points, hein, que je peux utiliser. J'ai remarqué que les périodes de rémission les plus longues que j'ai pu obtenir, c'est en remontant à la source du trouble.
D'accord, donc par
Et
des approches régressives, de
dans des
revenir
approches
à
régressives,
l'origine, dans le temps, la période où ça a
avec un
commencé, les
autoreparentage
premières
ou
fois,
un pont
etc.
d'affect ou des choses comme ça, revenir à la source de la problématique.
Rencontrer la personne qu'on a été.
Voilà, soit la personne adulte rencontre la personne, l'enfant qu'elle a été, ou soit faire intervenir une personne bienveillante qui va aider cette jeune enfant à sortir de cette problématique ou identifier pourquoi elle le fait, qu'est-ce qu'elle peut mettre en place
Une
de
approche un
différent.
peu narrative de personnification des affects, des émotions et de dialogue comme ça.
Une autre approche que je peux faire également et qui a parfois des effets très positifs, c'est en utilisant des suggestions post-hypnotiques, de faire un ancrage au bien-être en serrant les deux poings. Et puis, après, de faire des suggestions post-hypnotiques, dès que la main vient se diriger vers les cheveux, automatiquement, la main va se serrer en un poing et vous ressentirez un profond bien-être.
D'accord.
Voilà, ça
Une
peut
suggestion
fonctionner aussi.
post-hypnotique, quelque chose qu'on met en place pour après la séance, post,
Voilà.
après l'hypnose,
Voilà. Et avec l'idée que une fois que la main
des
est en
stratégies
point, elle ne peut
alternatives
pas
comme ça.
arracher les cheveux, puisqu'un point, ça ne peut pas
Bien
attraper les
sûr, ouais.
cheveux.
Oui, c'est une manière aussi d'avoir conscience de ce qui se passe et de court-circuiter l'effet du comportement inconscient où la personne ne se rend pas compte de ce qui se passe, où elle s'en rend compte une fois que c'est terminé, ça permet de revenir en présence de ce qui se passe. Comme ça. Mais les histoires TCC, bon, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que oui, mais non, parce que ça va trop vite. Donc sortir un carnet, noter sur à quel niveau, à quelle puissance,
Écoute, moi j'ai beaucoup de mes
etc.
clientes qui ont suivi des thérapies TCC sur cette question, avec des personnes qui étaient assez formées, avec une personne qui était particulièrement formée sur la trichotillomanie, et au bout d'un moment, elles ont laissé tomber, ça ne les a pas aidées, elles le faisaient plus, quoi. Alors, moi, ce que...
Donc c'est insuffisant alors. Alors est-ce qu'il
Tel
manque
qu'elles me le disent, c'est suffisant.
est-ce qu'il y a déjà des
Alors,
retards de prise en charge, du manque de prise en charge doit faire que les comportements se renforcent dans le temps
ils
aussi.
sont enracinés, hein, ces comportements, comme je te le dis, ils ont 16-18 ans de pratique. Bon, c'est un comportement vraiment enraciné.
Ça te paraît très réaliste, un hypnotiseur qui dit en une séance avec mon super protocole de trucs, je vous enlève la trichotillomanie. C'est
Écoute.
crédible ou pas ça?
Tout est possible, hein, mais ben, ça peut être un croisement entre une très forte motivation de la cliente,
Allez, est-ce que les
un
gens manquent de
moment, un
motivation?
changement de vie pour la personne, et puis arriver à cette coïncidence qui fait que ça va fonctionner. Parfois, ça arrive.
Ouais, ça existe.
Même dans certaines addictions sévères, parfois le changement se fait et on ne sait pas trop comment ça peut se faire à ce moment-là. Et donc, oui, pourquoi pas?
Mais
Mais
sans être particulièrement
enfin.
pessimiste, c'est quand même un travail sur le long terme. D'accord.
Dans lequel il faut retravailler toute l'identité de la personne, toute sa gestion de ses émotions, toute sa gestion du stress. Enfin, c'est quelque chose de profond. Alors,
Ça dépasse les compétences d'un hypnothérapeute ou pas?
non, je crois pas. Un hypnothérapeute, c'est un thérapeute, et du moment où il installe une relation thérapeutique de qualité, tout est possible. Et l'hypnose, ça reste un outil formidable. Hein. Donc, oui, non, ça ne dépasse pas les compétences du thérapeute. Mais ça s'appuie sur une relation thérapeutique très solide. C'est pas vous rentrez, bonjour, séance d'hypnose. Non. L'accueil, l'écoute, l'empathie, la relation thérapeutique. À la suite de la demande d'une de mes clientes, qui justement éprouvait le besoin d'en parler, de cette problématique, j'ai ouvert un groupe de parole, un groupe d'entraide sur la question.
D'accord.
Et bon, j'en suis au tout début, mais déjà j'ai fait deux rencontres. Et déjà, ces deux rencontres, elles ont eu des effets mais vraiment extraordinaires. Les personnes étaient plus que ravies de pouvoir échanger sur ce sujet avec des personnes qui les écoutaient, qui connaissaient la problématique,
qui sont concernées aussi.
Qui sont concernées, et puis qu'elles trouvent bien. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont géniales, au fond. Hein.
Ouais.
Et donc, elles voient...
Il y a des affinités entre elles.
Il y a des affinités, ouais. Et donc... Elles se rendent compte qu'on peut être génial tout en ayant ce problème.
Oui, ça fait pas d'elles des mauvaises personnes ou je sais pas quoi. Et d'ailleurs, ça devait être certainement la première fois qu'elle parlait à une autre personne qui souffrait de la même chose.
Oui. Oui. Et alors, toutes m'ont témoigné d'un effet extraordinaire. Ça les a remotivées, regonflées. Leur donner de la joie, enfin, ça a des effets extraordinaires. Ça faisait vraiment plaisir à entendre et à voir.
Ah, tu m'avais dit que ça t'avait intéressé parce que ces personnes te touchent personnellement,
oui.
Et je pense que
oui. Ce sont de très belles personnes.
Ouais. Isolées aussi, malheureusement, incomprises.
Isolées, incomprises, dans ce secret honteux.
Je crois qu'il n'y a pas. Enfin... On pourrait dire vu l'extérieur qu'il n'y a pas à avoir honte, mais on n'est pas évidemment, on peut pas comprendre, on n'en souffre pas.
Alors tu sais, j'ai eu un cours dans un DU que j'ai suivi sur la clinique de l'adolescent où on rangeait ce comportement de trichotillomanie dans les rubriques des automutilations. Mmh. Et c'est vrai quelque chose qui relève de l'automutilation, puisque les personnes vont s'arracher les cheveux, donc ça crée quand même un pincement, une douleur, c'est peut-être un peu exagéré, mais quand même un effet sensitif, et puis ça crée ces zones d'alopécie sur le crâne, ce qui est
une dégradation de l'apparence, mais pas forcément un comportement autodestructeur par contre. On avait parlé de... Il y avait des gens qui font des parallèles avec la scarification, par exemple.
Oui, en automutilation.
Que c'est comparable.
Oui, ben ça rentre dans les catégories des automutilations, selon certains auteurs. Ben oui, parce que dans les scarifications, par exemple, elles sont souvent utilisées pour soulager une tension intérieure. La personne n'a plus, n'élabore pas assez, n'arrive pas à élaborer pour soulager sa tension, alors va recourir à un geste physique de douleur, de souffrance. Et là, c'est pareil. La personne a une tension intérieure qu'elle n'arrive pas à sortir, qu'elle n'arrive pas à élaborer, donc elle va s'arracher les cheveux.
Donc il faudrait arriver à remonter à la source, remonter à l'émotion, aux affects qui génèrent ça.
Alors c'est une voie.
Ouais.
C'est une voie. Et en fait, c'est toujours comme ça, d'ailleurs, dans beaucoup de problématiques. On a soit la voie de revenir au pourquoi des choses et d'essayer de régler le pourquoi des choses, ou soit on a la voie de dire comment faire autrement. Mais c'est toujours...
On navigue un peu entre les deux, de toute
voilà,
façon.
Ou l'un ou l'autre.
Dans la prise en charge de la trichotillomanie, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes alors, toi, sur ce groupe de discussion, quelle en est la finalité? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe en visio, en présentiel? Est-ce que ça coûte quelque chose?
Alors, ce groupe de parole,
à qui c'est ouvert et comment on rejoint ce groupe?
C'est ouvert à toutes les personnes qui ont cette problématique. Moi, je suis une sorte de médiateur de ce groupe. Hein. Ça se passe à mon cabinet, à Paris, mais certaines peuvent suivre la séance, enfin le groupe en visio, parce que en fait, tout le monde a
On a tous des choses à faire, etc.
des localisations géographiques différentes. Bon, donc on a mis en place cette vision. On n'est pas très formel actuellement dans le. On ne se dit pas, voilà, il y a une réunion tous les 15 jours, etc. On se met d'accord un peu. On a créé un groupe WhatsApp. Et puis sur ce groupe WhatsApp, on va décider quand on va se passer la prochaine séance. Au niveau du tarif, eh ben, jusqu'à présent, je n'ai pas encore établi tarif. À un moment donné, a été abordé l'idée que ça représentait le coût d'une séance d'hypnose partagée entre le nombre de participants du groupe.
Oui, parce que c'est important aussi pour les gens de payer, de pas devoir quelque chose à quelqu'un, etc.
Et puis, par ailleurs, je m'investis hein, dans ce
Oui, bien
groupe.
sûr.
Je passe 1 heure de mon temps, donc une séance que je ne fais pas. Et puis, je fais un compte rendu du groupe. Enfin, je passe du temps.
Ouais, c'est
Donc.
un vrai travail, quoi. Pas juste de l'animation comme ça. Et comment ça se passe? Tu proposes de l'hypnose pendant ces sessions ou ça va
Alors,
être
justement,
plutôt un espace de parole, d'écoute?
Alors, c'est un espace de parole et d'écoute où les personnes. Bon, actuellement, on est encore dans le stade vraiment des présentations. On vient de finir ce stade-là, on va peut-être aller un peu plus loin. Mais là, dans les présentations, chacun expliquait quand on a commencé le trouble. C'était un peu. Il n'y avait pas de cadre très fixe dans la conversation. C'est plutôt apprendre à se connaître. Et se laisser venir les choses telles qu'elles venaient. J'ai lu récemment dans un livre d'Irving Yalom qui finissait ses groupes par un espace méditatif, un espace de méditation où chacun se serrait la main. Il y avait un moment de méditation. Ben moi, comme je suis hypnothérapeute, je me dis que ça pourrait être une bonne idée de finir le groupe par une séance d'hypnose collective d'union de ce groupe. Et je
Comme
pensais à ça de
tu
plus en plus.
l'as fait dans les quand tu étais dans les réunions de prévention des risques en addictiologie, où
Absolument,
tu m'as expliqué que de parler de ces addictions, etc., fait augmenter le niveau de craving, d'envie, de besoin, de manque. En fait, ça met les personnes en manque d'en parler. Et que de conclure ces réunions par une hypnose de groupe permettait justement d'apaiser la pression et de. Donc peut-être, il y a de ça, ça
absolument.
les fait souffrir aussi d'en parler, en même temps que ça les soulage ou pas,
Non,
ces
moi je ne
personnes.
vois pas de souffrance quand elles en parlent, je vois au contraire beaucoup de réconfort et beaucoup de bien-être. Parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup retenu, beaucoup gardé à l'intérieur, beaucoup avec des couches de honte. Donc non, ça je trouve du bien. Mais je me dis que c'est aussi une sorte d'union sacrée hein, à ces personnes. D'ailleurs, j'ai appelé le groupe les valeureuses. C'est le nom du groupe. Et qui me semble exprimer un peu ce que je ressens de ces personnes
Le courage, quoi. Le
qui sont
courage,
face à cette.
l'engagement.
Qui sont face à ce problème depuis longtemps, et qui sont débattus face à une problématique gênante.
C'est des choses qu'on reconnaît peu en tant que thérapeute, hypnothérapeute, mais on est souvent admiratif quand même des gens, de ce qu'ils arrivent à supporter quand même.
Ah oui, c'est sûr. C'est vrai.
La fréquence de réunion, tu dis
À
c'est
peu
un
près une
peu
fois
en
tout.
fonction des
À peu près
disponibilités,
une
mais
fois tous les 15 jours. Là, j'ai un prochain groupe prévu, je crois, pour le 9.
Comment on fait pour rejoindre le groupe?
Eh bien, on m'écrit sur mon adresse mail,
Edgar.smadja.
Edgar
Edgar.smadja.
Non, il n'y a pas de point, edgarsmadja@gmail.com.
Edgarsmadja.gmail.com. Comme ça se
Voilà.
prononce, Edgarsmadja.gmail.com.
C'est ça. Donc, on m'écrit, on prend qu'on. Voilà.
Quelles évolutions ont connu les gens depuis qu'elles sont dans le groupe de parole des valeureuses? Comment est-ce que ça donne une évolution, enfin, ça donne un confort, une sécurité pour les gens? Et ça, c'est.
C'est un
En
peu tôt
soi,
pour
c'est énorme, mais.
un peu tôt pour en parler, Manu. Donc là, vraiment, j'ai pas fait assez de groupes. Mais le peu que j'ai pu observer, parce qu'au bout du compte, j'ai fait que 2 groupes jusqu'à présent, donc je ne peux pas dire qu'il y a une
Ouais, c'est assez
vision,
récent pour
c'est
toi,
très récent.
cette découverte, ouais.
Mais en tout cas, à chaque fois, il y a eu un tel bien-être dégagé, exprimé, mais très puissant, très puissant. Donc, qui vient te toucher. le plaisir de pouvoir parler de quelque chose longtemps gardé en soi.
Que ce soit entendu, que ce soit compris par d'autres personnes qui
Oui,
souffrent de la même
et puis de
chose.
se rendre compte que d'autres personnes qui ont cette problématique sont des personnes bien.
Ouais, il y a certainement une dégradation de l'estime personnelle, de la confiance en soi qui est associée à ça. Est-ce qu'il y a d'autres troubles qui peuvent être associés à ça, soit en être cause, soit en être conséquence, ou
Alors
simplement associés, quoi?
la littérature scientifique parle beaucoup de TDAH. Ça peut être dans les comorbidités, le TDAH, les troubles anxieux, effectivement, beaucoup de troubles anxieux. Et maintenant, même si ce n'est pas un trouble, certains me rapportent une problématique de confiance en soi, et d'autres me disent que c'est peut-être un problème de gestion, de ressenti des émotions exacerbées, plus fortes que la moyenne, et qu'ils gèrent de cette façon-là.
Une sorte d'hypersensibilité,
C'est
un
à
peu,
creuser, je
plus
ne
ou
sais
moins.
pas.
Quand est-ce que les personnes se rendent compte que c'est un problème, en fait? Si en moyenne, il y a 18 ans de comportement avant qu'il y ait prise en charge, est-ce qu'il se passe 18 ans sans que la personne se rende compte, sans qu'elle se pose de questions?
Non,
Est-ce que ça varie dans le temps chez les gens que tu as rencontrés? Est-ce qu'il y a eu des périodes où ça s'était arrêté naturellement, où ça recommence? Est-ce que c'est
Oui,
stable? Est-ce que c'est
non, il y a des
constant?
périodes de rémission, ça arrive chez les personnes, et les personnes se rendent compte que c'est un problème quand elles voient bien qu'il y a un comportement un peu déviant, parce que quand elles se retrouvent sans s'en rendre compte à avoir arraché une masse de cheveux, ça les effraie un peu, ça les inquiète. Et puis quand elles commencent à avoir des trous sur le crâne, et bien évidemment, ça va influer sur leur vie sociale. Et là, c'est un vrai problème parce qu'elle n'ose plus, comme je te dis tout à l'heure, aller à la piscine, n'ose plus aller à la mer, elle refuse le week-end avec les amis. Enfin, ça influe sur la vie sociale, même parfois avec un compagnon. Comment faire, cacher une chose. Donc oui, elle se rend compte que c'est un problème. Et puis il y a une errance médicale parce qu'elles ne savent pas trop qui aller voir, les parents non plus. Ils vont voir un dermatologue, mais le dermatologue, si elles ne disent pas qu'elles s'arrachent les cheveux, il va croire que c'est autre chose. Le médecin généraliste ou même le psychiatre, il ne sait pas forcément, surtout si la patiente ne se livre pas. Donc, compliqué à gérer. Puis on n'en parle pas volontiers aussi. C'est aussi ça. Hein.
Dans
C'est.
2 à 4% de la population, ça fait quand même pas mal
Bah
de
oui,
monde concerné.
en
Enfin,
effet.
et on peut imaginer que ces chiffres-là sont en dessous de la réalité, puis si personne, enfin, si les gens n'en parlent pas.
Oui.
Est-ce qu'il y a un profil type de personnes qui.
Eh bien,
Est-ce
écoute,
que c'est
moi,
associé, je sais pas, à une classe sociale, une catégorie socio-professionnelle, une tranche d'âge? On sait que c'est plutôt les femmes qui sont concernées, ça s'explique ça? Pourquoi pas les hommes?
Eh bien, il y a des hypothèses, hein. On pourrait parler de la chevelure, ce que ça représente chez la femme comme attrait féminin. Et là, c'est porter atteinte à cette chevelure. Moi, dans les personnes qui fréquentent ce groupe, elles ont une certaine similitude entre elles. Ce sont des personnes bien intégrées, ce sont de jolies personnes, plutôt avec des fonctions sociales plutôt enviées, quoi, hein, qui
Ouais,
sont à un
parce que
bon
tu
niveau
m'as décrit
social.
plutôt valorisé, enfin
Plutôt valorisé.
classe moyenne, moyenne supérieure, quoi.
Oui, moyenne sup, je dirais.
Cadre ou profession
Voilà.
libérale, des gens comme ça. Plutôt intégrés, plutôt des personnes qu'on pourrait qualifier d'attractives,
Complètement.
etc. Pas de. C'est-à-dire, c'est. Enfin, en tout cas, ce que toi t'en as vu, c'est pas des personnes. avec des parcours psychiatriques particuliers ou pas forcément avec
Non, j'ai
pas
pas
des
vu ça.
pathologies ou des addictions ou
Alors, TDA, je sais pas,
pas
parce que
forcément des traumas ou des choses comme ça derrière en fait.
non, des personnes qui sont bien intégrées, qui ont des gros jobs, pour la plupart. Bon. Après, on n'a pas parlé de la genèse de cette problématique. C'est pas très clair. On peut peut-être retrouver un certain stress, à un certain âge. Il y a peut-être pour certaines, certains éléments de un peu entre guillemets traumatique, une séparation des parents, ou une crise familiale, ou le décès d'un grand-parent, enfin quelque chose qui puisse un peu les bouleverser à cette époque-là. Certaines m'ont parlé de certains cas de harcèlement. L'une d'entre elles, par exemple, ben, comme ça a commencé assez jeune, quand elle était au collège, elle mettait son foulard, et eh bien elle avait des zones d'alopécie sur le crâne, et eh bien ses camarades de classe ne trouvaient rien de mieux à faire que de lui enlever son foulard pour mettre en évidence ses trous sur la tête. Donc on peut bien imaginer que ça soit assez marquant et
Ouais,
assez traumatique. Hein.
je pense. Ouais.
D'autres. Voilà, pas grand-chose à signaler, des bonnes relations familiales, donc on ne sait pas trop. Bon, enfin maintenant, c'est peut-être que ça va se dévoiler dans le cadre de prochaines séances où des choses vont émerger et qui n'ont pas été dites jusqu'à présent. En tout
Est-ce
cas,
qu'il
dans
faut toujours
la...
trouver une cause, déterminer une cause, une origine dans les choses? Ça, je ne sais pas. Hein. C'est
Non, mais
peut-être.
dans la littérature, en tout cas, il parle pas mal de certains stress qui a pu se produire vers l'âge de 12 ans, au début de la puberté.
C'est quand même globalement interprété comme une réaction à quelque chose, quoi.
Oui, puisque c'est une façon d'apaiser sa tension intérieure. Donc, il faut bien qu'une tension intérieure naisse et qu'à un moment donné, on cherche à l'apaiser.
Et puis après, on peut se retrouver avec des habitudes qui tournent un peu à vide. Même si la personne est consciente que ça ne fonctionne pas, que ça n'apporte qu'un soulagement immédiat, ça ne veut pas dire qu'on est capable de le contrôler, quoi.
Non, d'où l'impulsion. Et d'où l'addiction comportementale et la cohérence de cette approche en addiction. Parce
Parce
que même
que.
si on sait que ça nous fait du mal, même si on sait que ça provoque des problèmes dans les cheveux, même si on sait qu'on va sentir coupable, on ne peut pas s'empêcher de réaliser le comportement.
Une ambivalence quoi. Mais spontanément, enfin, moi j'ai pas eu l'occasion de m'occuper concrètement de personnes qui souffrent de trichotillomanie, mais j'ai l'impression que spontanément, en tant qu'hypno, on a quand même des choses à proposer qui sont cohérentes avec ce parcours-là. En plus du cadre qu'on propose d'accueil, d'écoute, d'expression, quoi. Il y a
Bien
cet
sûr.
aspect-là, mais même au niveau hypnose, avec les techniques, les méthodes au niveau d'ancrage, de décharge émotionnelle,
Oui,
de
tout à
choses comme
fait.
ça.
Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui correspondent à la pratique hypnotique. Simplement,
Mais
il faut
ces
garder
paramètres du
son.
temps et de la complexité, en fait, c'est ça.
Il faut bien penser à installer une relation thérapeutique de qualité très solide, une relation de confiance. Et puis, aussi garder son humilité. C'est un truc qui existe, que les gens ont pratiqué quand ils viennent consulter. Généralement, ça fait 18 ans qu'elles le font, ce comportement. On n'a pas une baguette magique non plus. Donc, voilà.
Ni la
On
baguette
fait
magique,
le
ni la
mieux qu'on
comp enfin,
peut.
et ouais, pas de baguette magique, c'est qu'il y ait une compréhension forcément limitée des choses, parce que
Et la
le
plupart des
sujet
gens.
n'est pas très étudié, en fait, hein,
Non, non,
par
non,
rapport au nombre de personnes
il n'y a
concernées.
pas beaucoup d'articles sur la question, et la plupart des articles que j'ai pu lire ou que j'ai pu sur lesquels j'ai pu tirer des renseignements, la plupart s'accordent à dire que c'est un comportement qui ne guérit jamais complètement. On peut au mieux avoir des longues périodes de rémission.
Comme dans le cas, pour revenir dans le parallèle avec les addictions, on peut être abstinent très longtemps à vie, mais il y a
Voilà.
quand même quelque chose qui reste un
Qui reste
peu
gravé.
imprimé, quoi. Voilà. Les gens souffrent beaucoup de ça. Les personnes que tu rencontres par rapport à ça, comment elles vivent les choses? Comment elles décrivent ce qui se passe? Comment elles décrivent la crise, la compulsion, le vécu qu'elles ont?
Alors, ça dépend lesquels. Il y en a qui ont
Ouais.
vraiment du mal à en parler. Quand
Est-ce
elles en
qu'il y a des
parlent, tu
choses
vois,
qui reviennent un peu
alors, il y
d'une
a beaucoup
personne à l'autre?
d'émotions quand elles en parlent. Bien souvent, elles décrivent une absence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors soit elles s'aperçoivent qu'elles font un comportement et puis elles se retrouvent 1 heure après, ou soit elles savent qu'elles ont commencé le comportement d'arrachage, mais après elles perdent la notion du temps. C'est une absence, je dirais. Elles le décrivent ça comme une absence, une mise entre parenthèses totale. Et puis évidemment, après, il y a tous les cheveux qui sont là, il y a la culpabilité, il y a les dégâts que cela crée.
La honte, la colère, enfin
Voilà.
tout ce qu'on peut imaginer. Avant de conclure, Edgar, donc on invite les personnes qui souffriraient, ou si vous avez une personne de votre entourage qui en souffre ou qui présente des signes, d'écrire à Edgar, Edgar Smadja, tout attaché, @gmail.com, pour en parler, pour se renseigner, pour être orienté, éventuellement rejoindre le groupe de parole. Mais est-ce que tu auras un message à faire passer à ces personnes-là, pour les, je sais pas, pour les aider, pour les encourager? Qu'est-ce que tu peux...
Et bien d'en parler.
D'en
Je
parler,
crois que c'est
ouais.
le message principal, c'est d'en parler, d'aller consulter. C'est un trouble qui existe, qui est répertorié. Il n'y a pas de honte à avoir. Allez en parler. Aller consulter un hypnothérapeute, faites partie d'un groupe de parole, parlez-en autour de vous, à des personnes en qui vous avez confiance. Vous pouvez aborder ce sujet. Parlez-en.
Parlez-en.
Voilà.
Merci Edgar,
Avec plaisir, Manu, c'est
merci
moi qui
beaucoup
te
à toi.
remercie.
Et parlez-en les gens, voilà, restez pas tout seul.